Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission consacrée au cinéma avec des films qui sont en salle depuis le 23 juin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, deux films différents, parce que d'un côté on a Disney avec toi Guillaume.
Cruella de Greg Gillespie.
Et puis toi Manu, c'est une comédie horrifique.
Freaky de Christopher Landon.
Quant à moi, je vous parlerai d'un espion ordinaire, film avec Benedict Cumberbatch, et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial film d'espionnage. Cinq titres de films à trouver. Quant à Marine, elle nous parlera de Viviane et Johnny, et puis de Tokyo Shaking. C'est avec ce film que l'on va commencer. Une employée de banque française se retrouve à Tokyo alors que le tsunami a frappé la centrale de Fukushima. C'est Cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer.
Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir.
Mais c'est à 250 km au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur est pas touché.
Un capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête.
Je me suis battu pour vous avoir à ce poste.
Il voulait pas de vous, parce que vous êtes une femme et que vous aviez des enfants.
C'est une catastrophe nucléaire, alors tu restes avec ton personnel si tu veux. Mais tu m'envoies les enfants.
Nous sommes à Tokyo et nous sommes le 11 mars 2011, point crucial de l'histoire moderne du pays du soleil levant. Un séisme très puissant se déclenche, créant par la suite un tsunami qui ravage la côte du Japon, celle qui abrite la centrale de Fukushima. Il faut savoir qu'à cette époque, l'organisme privé qui gère la centrale avait reçu un rapport demandant de surélever les digues pour mieux la protéger, mais que cet organisme a préféré passer ce rapport sous silence plutôt que de se voir exposé à des coûts supplémentaires avec les conséquences que l'on connaît. Alexandra, interprétée par Karine Viard, travaille depuis peu au sein d'une banque française à Tokyo et se retrouve plongée dans une étrange situation entre panique des uns et déni des autres, alors que le danger d'implosion de la centrale s'accroît d'heure en heure au rythme des bulletins d'information. Alexandra est en plein dilemme. Doit-elle obéir aux ordres de sa hiérarchie, rester travailler malgré tout, ou suivre sa famille et fuir le pays? Jusqu'ici habituée à obéir aveuglément, comme elle le dit elle-même, en bon petit soldat, elle va apprendre la solidarité, le sens de l'honneur et devoir faire des choix inattendus.
C'est bizarre, aucun des Japonais ne veut partir.
Un code samouraï. Le groupe, le contrôle de soi, le suicide rituel.
Tant d'étrangers ont fui. Nous sommes très touchés que vous soyez restés.
On est des bons petits soldats, finalement. C'est vous qui êtes très courageux. Moi, je ne suis pas restée par courage, je suis restée par honte.
Le point intéressant de Tokyo Shaking, c'est son aspect film catastrophe, filmé au travers des yeux d'une famille, ce qui est plutôt classique, mais surtout au travers du regard des employés d'une même entreprise. L'entreprise étant par ailleurs au Japon considérée comme une deuxième cellule familiale, souvent pour les salariés eux-mêmes. Au centre du récit, le personnage de Karine Viard, par ailleurs inspiré du récit d'une amie du réalisateur Olivier Payon, s'avère passionnant en constante évolution, remettant en question par ce biais le système de l'entreprise à ceux qui y travaillent, car autour d'Alexandra évoluent différents personnages, un chef peu scrupuleux, un jeune stagiaire ambitieux et intègre venu du Congo et des employés japonais pour qui fuir serait une marque de déshonneur. Ce côté très documenté se retrouve bien dans la mise en scène qui, par ailleurs, bénéficie d'une belle montée en puissance au fil du récit, une construction qui fait fortement penser à celle, étrangement, de Titanic de James Cameron, avec le déni des puissants, l'amplification des dégâts d'heure en heure, la solidarité salvatrice et la confrontation des classes sociales différemment frappées par la catastrophe. Petite réserve en revanche au sujet de l'interprétation de Karine Viard qui nous a habitués à un jeu de qualité au cours d'une carrière éclatante et qui ici semble se parodier un peu, surjouant un rôle de cadre bourgeoise et carriériste qui demeure toujours impeccablement coiffée, car oui, après un séisme, après un tsunami, une implosion de centrale nucléaire et deux fusions de réacteurs, eh bien son brushing reste parfaitement en place. Or, cela peut sembler être un détail, mais difficile dans ces conditions de voir un personnage et non une actrice qui aurait demandé à être parfaitement recoiffée entre chaque scène.
Tokyo Shaking d'Olivier Payon. C'est en salle depuis le 23 juin. De Emma Stone et Thompson, pour voir l'apparition d'une des grandes méchantes de l'univers Disney, c'est Cruella, et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Cruella, où est-elle?
J'en sais rien. Ce n'est que le début, chérie.
Elle m'oblige à choisir.
Garde tes ennemis près de toi.
Cruella, reconnue comme styliste par certains et comme vandale par d'autres.
J'adore. Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent.
La précédente grosse tentative de faire un film sur une méchante Disney s'était soldée par un semi-échec. Alors attention, Maléfique avait été un succès box-office, au point d'engendrer une suite encore plus flasque, mais il n'avait rien de bien génial ni même d'attrayant, si ce n'est d'avoir été le dernier travail de l'immense maquilleur Rick Baker avant sa retraite bien méritée. On nous servait l'habituelle histoire du méchant qui en fait n'en est pas un, car il a été victime de méchanceté dans sa vie et qu'il faut comprendre car le monde est trop dur. Bref, c'était mou, frustrant, l'image de notre époque incapable de cristalliser le mal pour pouvoir expurger les passions et en plus voir Angelina Jolie voler à travers champs avec des fées, c'était très douteux. Alors qu'est-ce qui fait que Cruella, pondue à partir de l'exact même moule, est plus réussie? La réponse vient tout entier en un seul élément, d'habitude fondamental mais parfois très annexe dans le cadre de nos si gros studios. C'est le choix du réalisateur, ici Craig Gillespie. Et oui, comme c'est étonnant.
Mais chaque jour qui naît nous offre une nouvelle chance. Et moi, j'étais prête à imposer mon style. C'est quoi la chanson déjà ? Je suis une femme. Écoutez-moi rugir.
Parlons d'abord de l'histoire. Cruella est bien sûr le personnage éponyme tiré des 101 Dalmatiens et le film nous invite à nous pencher sur ses origines. Nous sommes à Londres dans les années 70 et nous suivons Estrella, une jeune voleuse surdouée dans le domaine de la création de vêtements et qui va essayer de se faire un nom dans le milieu de la mode. Alors que plus petite, elle assistait à la mort de sa mère et qu'elle se retrouve toute seule, elle se lie d'amitié avec deux garçons orphelins, voleurs à la Oliver Twist, avec qui elle va vivre une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations vont se faire remarquer par la baronne von Hellman, notez le nom, la figure ultime de la mode londonienne, voire même mondiale. Mais leur relation va déclencher, Dixit, le résumé officiel que j'aime bien, une série de péripéties et révélations qui amèneront Estrella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance.
Je suis Cruella.
Comme je l'ai dit plus tôt, on sait bien sûr d'entrée que le film ne se voudra pas vraiment méchant. Et c'est même confirmé très vite par une référence à un tube de Katy Perry qui invite les femmes à rugir alors que l'action se déroule dans le Londres punk de 1977. Le bébé supposément infernal né avec les cheveux bicolores. Alors au lieu de faire penser à Damien de La Malédiction, il rappelle plutôt le rigolo Pubert ou Puberté, le bébé moustachu du génial Les Valeurs de la Famille Adams. Estrella veut être styliste et travailler dans la mode. En attendant, elle va se servir de ses talents pour créer des costumes, pour tromper tout le monde et se déguiser pour voler. C'est une idée d'écriture particulièrement bien vue car elle permet un dynamisme et un jeu de faux-semblants qui rapproche Cruella du modus operandi d'Arsène Lupin, Fantomas ou Diabolique, même si sa signature reste le blanc et le noir. Il a bien une explication de pourquoi elle a ses cheveux, traduction d'une bipolarité qui est pas mal vue mais qu'on voit venir aussi à 20 km. Et puis bon, si vous n'avez pas fait le lien entre Cruella de Vil et la baronne von Hellman, c'est que vous êtes encore trop jeune pour écouter cette émission. La fameuse baronne est jouée par Emma Thompson, souvent présente pour Disney, tandis que l'on retrouve Mark Strong dans son 250e rôle de méchant ou bras droit du méchant. La surprise vient d'Emma Stone dans le rôle titre qui nous change de Glenn Close des deux précédents films Disney. C'est à la fois l'atout charme et l'argument principal car elle est tout simplement parfaite. Mais elle n'est pas seule. Il y a aussi le génial Paul Walter Hauser, vu dans le cas Richard Jewell, c'est lui qui jouait le fameux Richard Jewell, qui fait encore des merveilles et qui est probablement celui qui fait donc le plus d'étincelles à l'écran avec son bagout et sa manière de retranscrire un petit peu tout ce qui fait le charme d'un personnage aussi loufoque. Il était déjà à l'affiche de Moitonia, le précédent film de Craig Gillespie. Alors Craig Gillespie, justement, lui, il s'amuse beaucoup avec des moyens conséquents mis à sa disposition, avec le budget très confortable que lui a loué la grosse firme. Il y a de longs plans séquences défiant toutes les lois de la physique et en même temps une utilisation vraiment intelligente de la caméra à l'épaule. Un petit peu comme dans les films Cinéma Vérité des années 60-70, avec la petite touche de grain qui émule le style de cette époque. Donc si vous êtes attentif, vous verrez une petite différence justement dans le choix des cadrages et du grain de l'image. Alors comment ne pas conclure après sur bien sûr la bande originale tant elle est phénoménale. On y retrouve les Rolling Stones, les Zombies, Nancy Sinatra, Nina Simone, Deep Purple, Supertramp, les Doors, Blondie, Suzy Quattro, les Clash, Queen, David Bowie, les Stooges et même quelques notes de Black Sabbath. C'est super plaisant bien sûr et aussi parce que ces tubes sont bien utilisés. Ils soulignent tous un aspect du récit à ce moment-là, ce qui évite l'aspect artificiel du catalogue de l'époque, gratuit et plat. Donc Cruella, c'est tout le temps gentil et jamais vraiment punk, mais c'est hautement recommandable pour toute la famille, car c'est fait avec une sacrée énergie et un aspect ludique qui feront toujours plaisir. Et je pense que c'est un excellent moyen d'initier un petit peu vos enfants au rock, genre particulièrement mort aujourd'hui, et c'est bien triste.
Cruella, c'est un Disney donc que tu as apprécié, Guillaume. Il est en salle depuis le 23 juin. Un représentant de commerce à qui on demande de dénouer la crise des missiles de Cuba. Oui, c'est arrivé et on en a adapté un film, Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Sans vous, rien n'est possible en Union soviétique.
Ce serait un grand service à rendre à la Grande-Bretagne.
Et au reste du monde ?
Tout cela est fascinant. Je peine à croire que je suis en train de déjeuner avec des espions. Mais je suis représentant de commerce.
C'est ça.
Nous sommes dans les années 60. Greville Wine est un modeste représentant de commerce anglais. Il va bientôt se retrouver plongé au cœur de la guerre froide. Et sous l'impulsion du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Alors il s'agit de désamorcer ni plus ni moins qu'une escalade de conflits sur fond d'armes nucléaires et de mettre fin à la crise des missiles de Cuba. Ce film réalisé par un parfait inconnu au cinéma, en tout cas, est adapté d'une histoire véritable, ce qui est bien souvent le cas pour des films d'espionnage. Cela donne d'autant plus d'intensité. À se demander donc pourquoi le réalisateur a tant appuyé certaines scènes, surtout quand il s'agit de surjouer le drame. L'entrée en matière est plutôt bonne, quoique austère et classique. On y voit un homme déchiré entre l'équilibre de sa famille et un enjeu mondial. La mise en scène appuie ce grand écart en insistant sur le côté très ordinaire de cet homme qui, après avoir trompé sa femme, eh bien, tente d'être un mari modèle. Dans une seconde partie, le film insiste sur les rapports entre ce représentant de commerce et l'espion russe, un colonel médaillé qui voit le chaos se profiler et tente de faire quelque chose. Tandis que le Britannique avance à reculons, une amitié se noue entre les deux hommes et c'est le nœud du film. Car ce que nous donne à voir le réalisateur, au-delà de la grande histoire et d'un espionnage quasi réussi, c'est comment des familles, des amitiés, des relations entre les pays vont être disloquées et pacifiées. La mise en scène reste austère, il y a bien quelques élans de montage compulsif par moment pour accompagner le drame et le déchirement que vit le héros, mais dans l'ensemble, Un espion ordinaire avance doucement. Un film sans prétention qui tient à mettre en avant un personnage plus qu'une époque. L'ensemble apparaît un peu superficiel sans qu'on passe pour autant un mauvais moment. Ce n'est pas parce qu'un film manque de panache qu'on doit forcément le bouder. Donc c'est pour ça que je ne déconseillerais pas d'aller le voir. Surtout si vous aimez les histoires d'espions et si vous aimez la grande histoire aussi, puisqu'il en est question. Ce film, Un espion ordinaire, mais son titre original c'est De Courrier, donc, qui est le courrier tout simplement, je crois, en anglais. Film de Dominique Cook nous donne l'occasion de jouer un blind test pour bien découvrir 5 films d'espionnage. C'est maintenant.
J'ai quelque chose à dire.
Cinerama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors évidemment, vous n'avez pas eu le temps de réviser vos films d'espionnage puisque je vous préviens toujours au dernier moment. Donc 5 extraits à écouter, c'est le principe. Et puis, eh bien, il faut découvrir le titre. On commence par donc un premier extrait.
Allô ?
Je viens de décrocher, lancez le scan.
Jimmy, je veux ce téléphone.
Mais écoutez attentivement ce que je vais vous dire.
Mais attendez, c'est quoi ce cirque ?
À 10h, sur votre gauche, de l'autre côté de la rue, le Voyageur gris métallisé, il y a une équipe de surveillance dedans. Juste en face, sur le trottoir, à midi, il y a un type au deuxième étage en position statique. Il vous surveille.
Il y a un arrêt de bus à 50 mètres sur votre gauche. Vous allez marcher jusque-là.
Jimmy, il me faut ce téléphone. Il me le faut pour hier. Allez, il se déplace, il se déplace.
C'est pas son téléphone, monsieur. C'est...
On dit que ça ?
C'est pas son téléphone.
Comment, c'est pas le sien ?
On peut pas le relayer.
Oui, il est allé chercher ce foutu téléphone.
Alors, c'est trouvé.
La vengeance dans la peau.
Oui. Et comment tu as trouvé ? Parce que c'était pas si facile que ça.
Ben, je me souvenais de la séquence, en fait, hein, d'introduction. Enfin, je ne sais plus si c'est l'intro où il y a une poursuite comme ça. Ils sont à l'intérieur. Enfin, il y a la CIA qui recherche Matt Damon. Et voilà.
Bien joué. Donc, La Vengeance de la Peau de Bourne Ultimatum, réalisé par Paul Greengrass, sorti en 2007. Il fait partie donc de la série de films inspirée des romans de Robert Ludlum et débuté avec La Mémoire dans la Peau en 2002. Et on suit la quête de Jason Bourne pour retrouver son identité et comprendre pourquoi eh bien, on a voulu le tuer. Alors là, il s'agit du troisième volet de la saga. Et dans cet épisode, l'ancien agent de la CIA veut être tranquille, mais on le poursuit de Moscou à Paris, de Madrid à Londres et Tanger. C'est l'avantage, on voyage beaucoup avec Jason Bourne. En termes d'entrées, c'est 1,5 million d'entrées en France.
Alors, à noter que ça avait été le deuxième avait été une révolution, en fait, parce que le premier était par Doug Liman, c'était assez classique, mais le deuxième avait été, bon, pour le meilleur et pour le pire, pour moi c'est pour le pire, hein, mais il avait boosté les films d'action de l'époque en mettant une caméra à l'épaule très 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 secouée, à nouveau au cœur des films d'action qu'on n'avait pas vu depuis Une Journée en Enfer. Moi, je trouve que c'est très dur à suivre visuellement, mais en tout cas, tous les blockbusters d'action avaient suivi cette mode.
C'est pas faux, mais moi, je trouve que ça fait partie des films relativement impeccables en termes d'action, pour les films d'action. Et d'espionnage, puisque nous parlons d'espionnage dans ce blind test. Deuxième extrait.
De la vodka russe, c'est fameux. Oui, je la tiens du portier de l'ambassade soviétique à Tokyo, en plus de certaines autres choses. Écoutez. Je crois que la théorie de Londres comme quoi ces vaisseaux spatiaux partent de ce pays serait en fait exacte. J'ignore comment et où, et ne me demandez pas qui les lance non plus, mais j'ai comme une vague idée qu'il y a une puissance étrangère majeure dissimulée derrière ça.
Selon vous, ce n'est pas la Russie ni le Japon.
Non, non, ce n'est pas la Russie, mon vieux. Ça, je vous l'affirme.
Trouvé.
C'est On ne vit que deux fois. Je crois que c'est Guy Hamilton qui l'a réalisé.
C'est Lewis.
C'est Louis Gilbert, alors.
Gilbert, ah, oui. Film de 67 qui fait partie de la saga des James Bond avec Sean Connery. James Bond est envoyé au Japon pour enquêter sur des incidents qui ont conduit à la disparition des capsules américaines et russes. Donc tout cela provoqué par le spectre. Et il s'allie à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais. 4,4 millions d'entrées en France. Allez, un film beaucoup plus austère.
Ricky nous a aidés, Peter. Il nous a tout raconté sur ses aventures.
C'est un agent double. Il n'y a pas de taupe. Toute l'histoire a été inventée par Moscou. Carla l'a acheté pour 30 000 livres. J'ai volé ça à cause de vous. J'ai espionné mes collègues à cause de lui. Vous réalisez ce qu'on m'a demandé de faire ?
Ricky, vous dites que vous avez envoyé un télégramme au cirque concernant le secret d'Irina.
C'est vrai.
C'était à quelle date ?
Il ne connaît pas la date parce qu'il n'y a pas eu de télégramme. Toute l'histoire est une fabrication !
C'était le 20 novembre. C'était même le soir du 20 novembre.
Alors, il y avait un petit indice, c'est trouvé.
La taupe, c'était oui. L'indice. Donc, c'est le titre.
C'est ça, il en est question dans cet extrait. Et devinez qui prononce la taupe dans cet extrait, c'est Benedict Cumberbatch, eh oui, qui jouait donc dans ce film réalisé par Thomas Alfredson, sorti en 2012 avec Tom Hardy, Mark Strong, Gary Oldman, adaptation du roman homonyme de John le Carré, pas facile à résumer je trouve, hein, mais nous sommes au milieu des années 70, peut-être suffit-il de dire qu'il y a une taupe au sein des services secrets britanniques et qu'il s'agit de la débusquer, suspicion, manipulation et chasse à l'homme se conjuguent dans un film plutôt austère que moi j'avais vraiment apprécié parce que je trouvais que c'était on est plongé dans les années 70 et je trouvais la reconstitution assez admirable.
Est-ce que Mark Strong joue encore en méchant dedans ?
Je me souviens plus. Il fait pas partie, je crois, des méchants.
Après, c'est un peu compliqué. C'est toujours un film d'espionnage où il y a ni méchant ni bon. C'est
Il y en a des plus méchants que d'autres.
Oui, mais bon, tout le monde. Enfin, il y a un jeu de duplicité qui est un peu l'apanage d'un peu tous les personnages, à part le personnage principal, peut-être.
622 000 entrées en France. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-vous. Quatrième extrait.
Je ne suis pas sûr de vouloir y toucher.
L'accusé n'a pas d'avocat dans ses relations. La Cour fédérale nous a collé l'affaire. Le Conseil de l'Ordre a voté. Vous êtes choisi à l'unanimité.
C'était important pour nous. C'est important pour notre pays, Jim, qu'on voit que cet homme a droit à un procès loyal. C'est la justice américaine qu'on jugera.
Oui, évidemment. Présenté comme ça, c'est un honneur, bien sûr. Mais vous, Lynn, je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des lustres.
C'est comme se remettre au vélo, non ? Vous vous étiez distingué à Nuremberg.
Oui, mais j'étais dans l'équipe de l'accusation.
Ce n'est pas la question. Le droit pénal ne vous est pas étranger. Jim, regardez la situation. L'homme est publiquement vilipendé.
Et je le serai aussi.
Oui, dans les milieux mal informés. C'est exactement pour ça qu'il faut le faire, et le faire dans les règles. Sinon, on va croire que notre système judiciaire traite les affaires par-dessus la jambe.
Trouvé.
Alors c'est Le Pont des Espions de Steven Spielberg.
Et oui, sorti en 2015 avec Tom Hanks. James Donovan, un avocat de Brooklyn, se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission presque impossible, négocier la libération du pilote d'un avion espion américain qui a été capturé. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oscar 2016 du meilleur acteur dans un second rôle. Voilà pour Mark Rylance. 971 000 entrées en France. Cinquième et dernier extrait de ce blind test consacré au film d'espionnage.
Alors, ils mangeront ?
Et comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Hubert.
Deux blanquettes et un pot de brouillis. On me dit le plus grand bien de vos harengs, pas mal d'huile.
Je vous en sers un ramequin, vous vous ferez une idée.
Nous avons besoin de vous sur place. D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo ?
Musulman. Cherchez ce qu'avait découvert Jefferson et trouvez-moi qui l'a tué.
Comptez sur moi.
Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde, hein ? Américains, soviétiques, anglais, conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte.
Bien sûr.
Enfin, sécuriser le Proche-Orient.
Pas de problème.
Ça a été trouvé, on a bien le droit de rire.
OSS 117, donc.
Oui, Le Kearny d'espion, réalisé par Michel Hazanavicius, sorti en 2006. Alors, plus qu'un film d'espionnage, c'est une comédie parodiant James Bond, avec un agent secret orgueilleux, prétentieux, ignare plutôt, et bourré de préjugés, puisqu'il est misogyne, raciste ou encore xénophobe. 2,3 millions d'entrées en France. J'aurais pu aussi choisir Austin Powers dans ce côté un peu décalé. Ainsi s'achève ce blind test donc consacré au film d'espionnage, puisque nous parlions d'un espion ordinaire. Les corps s'intervertissent entre un tueur et sa victime. C'est Freaky, par le réalisateur de Happy Birth Dead.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Waouh ! En fait, si on était dans un film d'horreur, je serais l'une des premières à se faire tuer. Manquait plus que le mec flippant avec un masque. Je vous l'avais dit. Mais contre toute attente, il s'est avéré...
Où est-ce que je suis ?
Qu'il ne m'a pas tué.
Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix ?
Je me suis réveillée dans le corps du tueur.
Après les excellents Happy Birth Dead 1 et 2, un slasher ludique sur fond de boucle temporelle, Christopher Landon, fils de Michael, alors Charles Ingalls lui-même, creuse à nouveau un sillon jadis occupé par Harold Ramis, auteur d'Un jour sans fin et Ma femme, mes doubles et moi, la comédie conceptuelle avec au centre une idée matrice, défiant toute notion de logique mais laissant libre cours à une imagination débordante. Cette fois-ci, il s'agit de l'échange des corps, thème finalement pas très neuf, souvent repris par le cinéma américain, quel que soit le genre, D'Au revoir Charlie de Vincente Minnelli à Volte-face de John Woo en passant par Big ou Freaky Friday. Alors la comédie reste le terrain de jeu idéal de scénarios souvent excitants, multipliant les quiproquos et paradoxes, servant une morale existentialiste plus ou moins progressiste. Alors Freaky s'inscrit totalement dans cette veine, mais brouille les pistes en mutant avec un autre genre, donc le slasher, qui connut son heure de gloire dans les années 80 avant d'être réhabilité en 96 par un certain Wes Craven. D'ailleurs l'ouverture évoque furieusement Scream et ses petits modèles, un petit massacre en règle d'un groupe de jeunes et d'une famille par un homme à capuche nommé Le Boucher. Cette introduction estomacante est un modèle d'élégance visuelle bénéficiant en prime d'excellents effets gore. Alors ensuite, nous faisons connaissance de l'héroïne, Millie Kessler, une ado de 17 ans, timide et un peu gauche, pas très populaire dans son lycée très élitiste de Blissfield Heights. Lors d'un match de football américain, elle est la cible du Boucher par un concours de circonstances, ou plutôt une pirouette scénaristique, sous l'effet du poignard antique du serial killer, volé lors du prologue, ils se réveillent tous deux dans le corps de l'autre. Alors, véritable course contre la montre, Millie n'a que 24 heures pour retrouver son corps afin de ne pas rester coincé dans la peau d'un personnage pas très recommandable, auteur tout de même d'une cinquantaine de crimes atroces. Alors de son côté, le boucher, devenu une jolie jeune fille d'apparence innocente, se délecte de la situation.
Il m'a poignardé avec une vieille dague bizarre, mais au moment de l'impact, on a été blessés tous les deux.
Comment ça ?
Faire pipi debout, c'est assez cool.
Millie, focus !
Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ?
Vous avez été blessée ?
Ah, oui. Quand il m'a poignardé, il a été blessé à l'épaule gauche exactement au même moment et au même endroit que moi. Et cette nuit, j'entendais constamment le nom de la dague comme un murmure chelou dans ma tête. La Dola, la Dola. Je pense que c'est cette Dola-là responsable. J'en suis du genre à 10 litres de pisse. La vessie de ce type est énorme.
Est-ce que tout est énorme ?
Joshua.
Je te signale que c'est les toilettes des mecs.
Elle a une bite à la main et tu portes Chanel numéro 5. On se passera des étiquettes.
C'est trop ridicule.
La première bonne surprise de cette comédie horrifique qui développe une sensibilité queer plutôt bienvenue se situe au niveau de la caractérisation des personnages. Évoquant le meilleur des teen movies contemporains et passés, hissant le film au même niveau, au niveau des plus beaux films de John Hughes, ce qui était déjà le cas des deux précédents films de Christopher Landon. Alors Millie s'avère une figure immédiate attachante. Hein. Elle forme avec ses deux amis, une black et un homo, un trio de sympathiques lycéens marginalisés, un joli trio défiant le conservatisme dans lequel se vautrent parfois les comédies pour ados. Le fait que le réalisateur soit ouvertement gay n'a rien de hasardeux. En matière de gentille subversion, n'oublions pas qu'il fut aussi le scénariste de Larry Clark, notamment pour Another Days in Paradise. Alors ensuite, Christopher Landon connaît ses classiques sur le bout des doigts, parvient à agencer humour et horreur avec une efficacité qui se retrouve dans une mise en scène intelligente, assez mouvante, hein, très propre sur elle lorsqu'il s'agit de filmer les élèves dans le lycée. Elle devient sombre et inquiétante, jouant sur les ombres et les couleurs, rendant hommage à des cinéastes comme John Carpenter et même Dario Argento. L'antre du tueur rappelle même, toute proportion gardée, la maison de dégénérés de Massacre à la tronçonneuse. Alors certaines facilités narratives peuvent rebuter, notamment tout ce qui tourne autour des explications de la situation, alors aussi inutile que parfois grotesque, et le film affiche un petit ventre mou à mi-parcours. Le cinéaste aborde aussi de manière assez superficielle la question de l'identité. La dysphorie de genre aurait pu amener à une réflexion plus poussée, mais on en reste à l'exploration superficielle du corps de l'autre, ce qui nous vaut néanmoins l'occasion de rire à des séquences fort drôles, certes pas toujours d'une grande subtilité. Mais ne boudons pas notre plaisir, Frikir reste un excellent divertissement, une adroite combinaison entre le slasher post-crime déjà marqué par l'ironie et la comédie burlesque à travers le portrait attachant d'adolescents en quête d'identité. Alors enfin, cette production Blumhouse bénéficie aussi d'une interprétation excellente de Catherine Newton, que moi je ne connaissais pas, mais qui doit être connue de certaines séries à mon avis, et surtout de Vince Vaughn, qui prend un malin plaisir de rentrer dans la peau d'un personnage d'une adolescente.
Freaky, donc, est en salle depuis le 23 juin, tout comme Viviane et Johnny, un documentaire qui retrace l'histoire d'amour entre Johnny Cash et Viviane, la mère de ses enfants.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance always have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on.
Vous avez tous vu le film Walk the Line avec Joaquin Phoenix qui incarne Johnny Cash et Reese Witherspoon qui incarne June Carter, la musicienne et chanteuse qui, selon la légende, a sauvé Johnny Cash de ses démons et qui est restée à ses côtés jusqu'à la fin. Mais connaissez-vous Viviane Liberto, sa première femme avec qui Johnny Cash a eu 4 enfants tout de même ? Ce documentaire retrace leur histoire d'amour, une histoire d'amour à la base plutôt banale, jusqu'au jour où Johnny Cash devient célèbre et tombe dans l'alcool et dans la drogue. Ce documentaire parle d'une femme qui a été invisibilisée par l'histoire, une femme qui a beaucoup souffert de la célébrité soudaine de son mari, qu'elle va vivre comme un cauchemar, une femme qui va tenter, en plus de sortir son mari de ses addictions sans succès, qui va être menacée de mort par des groupes racistes à cause de son métissage, et qui, pour couronner le tout, va être dépeinte ensuite dans le biopic Walk the Line comme une hystérique et une femme complètement ingérable, qui aura été finalement un frein à l'épanouissement artistique de son mari. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est déjà qu'il rappelle ce que c'était qu'être une femme dans les années 50-60 qui devait rester à la maison, qui dépendait de son mari et qui était rejetée si elle divorçait par la communauté. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que l'histoire qu'il raconte est finalement assez universelle. Une femme qui essaie de sauver son mari célèbre de ses démons et qui non seulement souffre de ne pas y arriver, mais qui va en plus être tenue responsable de tous les problèmes de son couple par l'opinion publique, on trouve énormément d'exemples de couples comme celui-ci dans l'histoire de la musique moderne. Et le documentaire détaille bien les mécanismes qui font que l'on arrive à cette situation, notamment dans la façon dont les médias sont impliqués. Et puis, au travers du destin de sa première femme, on découvre également d'autres facettes de Johnny Cash en tant qu'homme et en tant qu'artiste, avec une structure documentaire assez simple mais efficace qui alterne interviews de ses 4 filles, images d'archives personnelles et images tirées de divers médias de l'époque. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance always have a somber tone?
where there's a reason for the things that I have on.
Vivienne et Johnny, c'est en salle depuis le 23 juin.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, le sommaire n'est pas tout à fait fignolé, mais on parlera quand même d'un film français un peu particulier.
Oui, en représentant de ce qu'on appelle encore une fois une nouvelle vague de films d'horreur à la française, donc Teddy.
Et on entendra même les deux jeunes réalisateurs. À la semaine prochaine.